jusqu'à 10 heures. Fais partie du club. Le club du matin.
Et on est de retour, 8h56, c'est notre rendez-vous quotidien avec Alexis dans lequel on décortique les mouvements qui ont été faits par les différentes équipes de la Ligue nationale au cours de l'entre-saison. On a commencé ça il y a deux semaines lorsque j'ai amorcé mon remplacement estival le matin avec les équipes de l'Ouest. On s'en vient tranquillement on est déjà rendu vers l'Est, mais on s'amène tranquillement vers la section atlantique du Canadien. Pour l'instant, Alexis, on est encore dans la métropolitaine, à commencer par les Islanders de New York qui, eux, ont volé le spectacle jusqu'à un certain point au cours de l'entre-saison, de par leur première sélection au total, ce qui est toujours un moment spécial dans l'histoire d'une organisation. Ça n'arrive pas nécessairement souvent. Et bien sûr, par les transactions qu'on a faites, notamment, bien sûr, celle de Noah Dobson, qu'on pourra reparler sous l'angle du Canadien dans quelques jours. Mais là, parlons-en sous l'angle des Islanders.
Ouais, ben tu le dis, on peut voler voler le show, si on peut utiliser l'expression, lors du repêchage, puisque surtout, c'est pas une équipe qui avait terminé dans les bas-fonds de la Ligue l'an passé. Il avait quand même bataillé pour une place en série. On a vraiment fait un énorme bond dans cette loterie au repêchage. Et écoute, je pense qu'on l'a pris vraiment. Là. Ça tombait à un bon moment un petit peu pour les Islanders parce que je te dirais que c'est une organisation qui n'a pas nécessairement une banque. Ben là, maintenant, c'est différent, mais avant le repêchage, n'avait pas une banque d'espoir très garni pour autant. Et on n'a pas un noyau non plus exceptionnel. C'est une équipe qui est qui est remplie de vétérans, un petit peu plus vieillissants. Il n'y a aucun joueur vraiment là, explosif exact. En attaque de ce côté-là. Il y a Matthew Barzal, mais je veux dire, il est un petit peu seul à ce niveau-là. Et c'est pas non plus un joueur étoile de la Ligue nationale comme un McKinnon ou des joueurs de ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu vide du côté des Islanders. Et je pense qu'on savait pas nécessairement trop dans quelle direction on voulait s'en aller. C'est certain que autant et aussi longtemps que Lou Lamoriello est en place, je pense qu'on essayait de viser les séries le plus possible. Et là, maintenant qu'on a fait qu'on amorce un nouveau départ avec Mathieu Darche, je pense que ça a bien tombé qu'on ait ce premier choix-là, Matthew Schaefer, qui a été repêché. Et par la suite, bien évidemment, la transaction qui a retenu l'attention cet été, je crois, autant du côté du Canadien que des Islanders, mais honnêtement, dans toute la Ligue nationale, c'est bien évidemment celle de Noah Dobson qui fait ses valises pour Montréal. Et en retour, Emil Heinemann qui prend la route des Islanders, en plus des choix 16 et 17 que le Canadien possédait en première ronde. Et avec ces choix, les Islanders qui ont repêché Victor Eklund et Kashan Aitchison. Donc, Eklund qui est quand même un joueur là, qui a glissé à ce repêchage-là, je pense qu'on peut le dire. Là. Un joueur qui est le frère d'ailleurs de William, lui qui deux joueurs qui se ressemblent quand même niveau de talent, niveau potentiel. Mais pour ce qui est du point de vue des Islanders, cette transaction-là, écoute, Heinemann, on va chercher un joueur qu'on connaît bien ici à Montréal, un joueur de rôle qui est capable honnêtement de bien faire sur une quatrième ligne. On l'a vu lorsqu'il était blessé cette saison avec le Canadien, ça l'a quand même paru. On dirait que ça chamboulait la chimie qu'on avait sur ce quatrième trio-là. Donc lui va venir jouer son rôle du côté des Islanders, mais c'est certain qu'on perd quand même tout un morceau en défensive là, chez les Islanders.
Il y a quelques acquisitions à souligner du côté de New York. Bon, Jonathan Drouin notamment en est une, t'en as parlé de quelques autres. Celle de Maxime Chabanov, je pense, intrigue beaucoup les gens. Il y a peut-être des amateurs présentement qui viennent d'entendre ce nom-là pour la première fois. C'est une signature qui entre dans la catégorie des paris qu'on fait en provenance de la Russie. Reste à voir si ce pari-là va payer pour les Islanders. Là.
C'est un deuxième pari en deux ans en provenance de la KHL pour les Islanders, eux qui avaient mis la main sur Maxime Tiplakov l'an passé. Et écoute, ça s'est quand même bien passé du côté de Tiplakov cette saison. Et on a décidé de justement récidiver là, cette saison avec Maxime Chabanov, qui lui est un ailier droit de 24 ans, très petit format par contre, là, 5 pieds 8, 156 livres seulement. Donc c'est pas un gros joueur. Et lui qui a passé là, les trois dernières saisons avec le tracteur de Chelyabinsk dans la KHL, a amassé 148 points en 196 matchs. Écoute, je vais pas prétendre de connaître ce joueur-là comme le fond de ma poche, mais toutefois, pour avoir vu quelques séquence de lui, ça m'a l'air d'être un joueur très habile, qui a des bas de main, surtout un joueur justement assez créatif en attaque. On l'a vu réussir là, justement quelques beaux jeux de la sorte en KHL. Toutefois, est-ce que ce sera la même chose dans la LNH? Eh bien, on le verra cette saison. Toutefois, c'est un pari qui n'a pas coûté très cher aux Islanders, là, un an à moins d'un million par année.
Tu vas surveiller Matthew Schaefer et Jonathan Drouin pour cette équipe des Islanders cette année. Matthew Schaefer, premièrement, est-ce qu'il sera dans la Ligue nationale? Voilà. Je pense que si j'avais à miser, je dirais que oui, mais c'est quand même pas certain qu'il sera là.
C'est pas certain. Écoute, il y aura son poste à gagner au camp d'entraînement. Toutefois, avec la perte de Dobson, ça libère un un poste aussi du côté de la défensive, même si les deux ne jouent pas nécessairement du même côté. Écoute, Mathieu Schaefer, on le sait, là, l'an passé a raté plusieurs matchs en raison de blessure, a joué seulement 17 rencontres avec les Otters d'Erie dans la OHL, lui qui a amassé 22 points lors de ses 17 matchs. Écoute, j'ai hâte de voir son camp d'entraînement. Je pense que c'est un joueur qu'on a tous hâte de suivre un peu particulièrement chez les Islanders. Je pense qu'avec la perte de Dobson, c'est le défenseur qu'on voit justement comme futur pilier de ce groupe défensif-là chez les Islanders, lui qui devrait mener la charge dans le futur. Reste à voir si ça se fera dès cette année, mais clairement, aura la chance de se prouver. Puis pour ce qui est de Jonathan Drouin, eh bien, j'ai hâte de le suivre cette saison, puisque là, lui, on le sait, il lancera une quatrième équipe dans la LNH, et ça n'a pas été facile avec le Canadien de Montréal, on s'en rappelle. Toutefois, il avait quand même connu du succès là, du côté de l'Avalanche lors des dernières saisons, et particulièrement lors de la saison passée. Il a raté beaucoup de matchs aussi, mais lors des 43 qu'il a disputés, il a quand même amassé 37 points. Toutefois, là, si on regarde du côté des Islanders, c'est pas le même punch en attaque que du côté de l'Avalanche. Là, on va s'entendre là-dessus. Et même chose sur l'avantage numérique. Donc, oui, il va avoir sa chance sur le premier trio, assurément. Mais justement, est-ce qu'il pourra garder ce même taux de succès-là sans l'apport des joueurs étoiles qu'il avait autour de lui? Je pense à des Cale Makar, des MacKinnon, Rantanen lorsqu'il était avec l'Avalanche, par la suite Martin Nečas. Donc, ça va être à surveiller, mais c'est pourquoi je l'ai mis dans ma liste de joueurs que je vais surveiller cette saison. Juste rappeler sa signature à Jonathan Drouin, c'est 2 ans, 4 millions avec les Islanders.
Ouais, les Islanders qui sont dans une transition un peu où on a de la difficulté à savoir où ils s'en vont. On va se garder pour la fin de la section métropolitaine ta prédiction pour la suite. Notre prochaine équipe, c'est celle l'autre équipe de New York, les Rangers, de leur côté, qui eux ont fait quelques acquisitions, notamment Vladislav Gavrikov, mais il y a aussi eu des départs. On sent qu'on est en fin de cycle un peu avec Chris Kreider, Keandre Miller, il y en avait eu d'autres évidemment pendant la saison aussi là. Alors c'est une équipe qui change tranquillement vers une nouvelle ère un peu là.
Je te dirais que c'est un petit peu difficile à suivre là, ce qu'on essaie d'aller chercher du côté des Rangers. On a fait des transactions l'an passé, des fois qui laissaient présager qu'on amorçait un nouveau cycle, et des fois, comme je pense à la transaction de JT Miller, c'est comme si finalement on voulait toujours espérer être en série et essayer de faire du dommage. Donc je pense que il y a peut-être un petit peu de confusion à ce niveau-là, mais cette confusion-là part certainement du fait qu'on a raté les séries l'an passé et que c'était pas sur le radar de personne avant le début de la saison. Je pense qu'on voyait tous les Rangers avoir une bonne saison, être dans les top 3 au moins de la division métropolitaine. Et ils avaient l'équipe, les Rangers, là, pour se rendre loin en série. Et là, lorsqu'on a vu que ça a été plus difficile, de 1, Igor Shesterkin devant le filet, c'est une signature qu'on va peut-être regretter, ou en tout cas, je sais pas si on va la regretter, mais on peut certainement la mettre en doute aujourd'hui puisqu'il a connu une saison assez difficile pour le contrat qu'il a signé. Et par la suite, ben, on a décidé de faire quelques transactions du côté des Rangers, notamment, tu l'as mentionné, Chris Kreider qui est parti du côté des Ducks d'Anaheim contre pas grand-chose, pour être bien franc. Carey Terrence qui s'amène en retour, c'est pas un joueur très, très flamboyant, c'est pas un gros joueur en fait non plus de calibre LNH. Sinon, l'autre transaction qui a retenu l'attention, évidemment, ben, c'est celle de Keandre Miller qui a laissé la place par la suite pour la signature de Vladislav Gavrikov sur les joueurs autonomes. J'ai aimé cette transaction de Keandre Miller. Honnêtement, on va chercher Scott Morrow, qui est quand même un jeune défenseur prometteur qu'on avait du côté des Hurricanes. On a également acquis des choix de premier et de deuxième tour. Donc, honnêtement, je pense que c'est une transaction qui va être profitable pour les deux équipes. Mais je pense qu'avec cette offre-là qu'on avait sur la table pour Keandre Miller, sachant que Gavrikov allait s'entendre avec l'équipe, c'était une transaction qu'on ne pouvait pas trop passer à côté. Là.
Quelques joueurs à surveiller, Will Cooley, mais également Alexis Lafrenière, qui tente encore là, de donner le gros coup dans la carrière qui l'attend peut-être depuis longtemps. Ceci étant, c'est un joueur qui est en progression dans les dernières années, Alexis Lafrenière. Là.
Ben oui, mais l'an passé, toutefois, quand même une régression dans le cas d'Alexis Lafrenière.
Après avoir eu une très belle année la saison précédente.
Il avait presque atteint le plateau des 30 buts, avait produit 57 points, et l'an passé a produit 12 points de moins. Donc, il a terminé la saison avec 45 points. Et aussi, il y a eu un différentiel négatif de moins 13 comparé à plus 2 la saison précédente. C'est certain que ça va aussi avec le succès de l'équipe, c'est mine de rien, là, mais toutefois, quand même une déception, je pense, là, du côté de Lafrenière et du côté des amateurs aussi l'an passé, de voir cette régression-là, puisqu'on pensait vraiment là, qu'il avait finalement pris son envol lors de la saison précédente. Et là, on en est rendu à se demander... Est-ce que c'est vraiment le joueur qu'on attendait? Est-ce qu'il sera vraiment en mesure de produire au rythme qu'il nous a offert il y a 2 ans sur une base régulière. Lui qui amorce cette année d'ailleurs son contrat de 7 ans à un petit peu plus de 7 millions de dollars par année. Donc là, ça va être sa 6e saison dans la LNH pour Alexis Lafrenière. Et honnêtement, j'ai envie de te demander, est-ce que si cette saison-là est encore difficile pour lui, est-ce qu'on peut commencer à parler d'un échec ou c'est encore
non.
trop tôt?
Non, je parlerai pas d'un échec dans le cas d'Alexis Lafrenière quand même. Est-ce qu'il produit aussi au rythme auquel il aurait souhaité? Peut-être pas nécessairement, mais je pense que ça reste quand même un gars qui approche les 400 matchs dans la Ligue nationale, qui a 23 ans et qui reste en progression, qui est signé à très long terme avec les Rangers jusqu'en 2032 pour plus de 7 millions. Alors ça montre la confiance qu'on a envers lui. Je pense que les prochaines années vont assurément dicter l'impression qu'on gardera de lui, mais il est encore très jeune, 23 ans. Je pense à des gars comme Nikita Kucherov. Il y en a plusieurs des gars qui se sont mis à produire un peu plus sur le tard. Kucherov est un choix de 2e ronde versus Lafrenière qui en est un très tôt. Je sais que la comparaison est peut-être pas tout à fait la même, là, mais il y a encore place à beaucoup de temps et beaucoup d'amélioration pour lui. Là.
Parce qu'on l'a vu qu'il y a du talent Alexis Lafrenière. Lorsqu'il est en santé, lorsqu'il est au top de sa forme, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de belles choses offensivement. Et là aussi, cette année, va bénéficier d'un nouveau départ en quelque sorte, puisqu'on amène Mike Sullivan derrière le banc, lui qui en sera de première saison là, derrière le banc des Rangers après 10 saisons passées avec les Pingouins. Donc, est-ce que lui, justement, pourra essayer de relancer sa carrière, peut-être essayer de lui donner de meilleures opportunités sur la patinoire pour réussir? Ça sera à voir. Et je termine rapidement avec Will Cooley, qui lui est un joueur honnêtement qui m'intéresse, qui est intriguant aussi. Faut remonter en 2020 là, pour sa sélection en 2e ronde au 60e rang au total, âgé de 23 ans seulement. C'est un joueur qui, lui, s'est entendu il n'y a pas si longtemps que ça avec les Rangers pour un contrat pont, peut-être, je dirais, là, de 2 ans, un peu moins de 4 millions de dollars par saison. Lui qui a quand même connu une belle progression dans son cas, là, a eu 21 points à sa première saison et passé à 45 l'an passé, dont 20 buts. Donc, quand même, un plateau assez intéressant pour lui. Et je m'attends honnêtement à ce qu'il soit un joueur qui risque de voir sa progression offensive augmenter dans les 2 prochaines années de son contrat, puisqu'il risque justement de vouloir signer à un plus gros montant d'argent lors de sa prochaine signature.
Alexis, on va terminer avec les Blue Jackets de Columbus qui, de leur côté, sont la 3e équipe que tu surveilles aujourd'hui. On a un 3-4 minutes, là. Alors, je te laisse y aller avec les Jackets.
On y va rapidement du côté des Jackets. Écoute, une formation, on le sait, qui s'est battue avec le Canadien jusqu'à la toute fin pour une place en série l'an passé. On a vraiment chauffé le derrière du Canadien, là, eux, qui avaient gagné leurs 6 derniers matchs de la saison et qui ont finalement terminé, là, à, je crois, c'était juste 2 points derrière le Canadien, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être une déception à ce niveau-là pour les Jackets. Toutefois, c'était une saison qu'on n'attendait peut-être pas nécessairement. C'est quand même une 5e année de suite là, en ratant les séries pour les Jackets. Écoute, cette saison, on a décidé d'aller chercher, je pense, un petit peu de profondeur justement pour essayer d'épauler cette formation qui comporte quand même plusieurs jeunes joueurs. Je pense à des Charlie Cole et des Miles Wood qu'on a acquis en provenance du Colorado. On a également été chercher Isaac Lundestrom qui était un joueur du côté de Anaheim. On l'a signé pour 2 ans. Et on a aussi prolongé là, plusieurs joueurs à long terme. Je pense à Ivan Provorov, long contrat de 7 ans, 8,5 millions. Dante Fabro aussi en défensive, un 4 ans, 4 points, 125 millions. Et Dimitri Voronkov, lui, qui a signé pour 2 ans. On a laissé aussi beaucoup de vieux vétérans, de joueurs un petit peu plus âgés partir. Là. Je pense à des Sean Curley, James Van Riemsdyk, Jordan Harris, l'ancien du Canadien, lui, qui se retrouve maintenant du côté de Boston, Luke Koonin, Kevin Labanc et Jack Johnson, notamment. Je pense que du côté des Jackets, l'an prochain, honnêtement, on va encore essayer de viser les séries. On a vu qu'on était capable d'accomplir de belles choses. On a un noyau qui est quand même qui est en train de prendre place là, avec les Adam Fantilli, Ken Johnson, Kirill Marchenko et fait intéressant à noter aussi Yegor Shinnakov qui lui avait demandé une transaction aux Jackets un peu plus tôt cet été, dossier qui est toujours pas réglé là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner d'ici le début de la prochaine saison.
Ils ont un beau noyau avec Ken Johnson, Adam Fantilli et Danton Matejczak à la défense là, qui représentent 3 excellents espoirs. On sait comment Zach Werenski aussi a eu une saison incroyable l'an dernier.
A été dans les finalistes justement pour le trophée Norris, mais honnêtement justement le duo Fantilli-Johnson va être à surveiller puisque c'est eux qui avaient été justement un petit peu au cœur des succès des Jackets en toute fin de saison. Et mes deux joueurs à surveiller cette année du côté des Jackets, rapidement, j'ai Kirill Marchenko, lui justement qui a vraiment éclos cette saison avec 74 points, dont 31 buts. C'est vraiment une belle progression dans son cas. On parle quand même d'une hausse là, de 32 points comparativement à la saison précédente. Lui qui est signé à rabais en plus pour les deux prochaines saisons. Clairement, on va encore lui donner beaucoup de responsabilités cette saison, voire justement à l'aile droite du premier trio. Donc un joueur assez intriguant qui s'est vraiment développé au cours de la dernière saison du côté des Jackets. Et mon deuxième joueur, eh bien, je pense que c'est sans surprise, Adam Fantilli. Lui qui vraiment aussi là, est en train de se dévoiler comme joueur très prometteur du côté des Jackets. Lui va devenir éventuellement le premier centre de cette équipe-là, avec, supporté par Sean Monahan. On a vraiment vu là, l'étendue de son talent la saison passée, a atteint le plateau des 30 buts, dont 7 à ses 6 derniers matchs, dans la poussée des Jackets vers les séries. Donc c'est un joueur aussi qu'on peut qualifier de clutch, pour utiliser l'anglicisme, là, qui élève son jeu lorsque la pression est là. Donc lui qui termine justement son contrat recru cette saison, va vouloir aller chercher un gros contrat l'été prochain. Donc je le vois vraiment là, poursuivre sur cette ascension cette saison et essayer d'aider les Jackets à se tailler une place en série.
Alexis, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On va poursuivre le tout demain, ouais. Mais on vient de faire un beau tour là, des deux équipes de New York et de la formation de Columbus.
Oui, absolument. On poursuit ça demain.